Ça vient de moi parce que une fois que mes chansons étaient prêtes, j'ai écouté beaucoup de productions des uns et des autres. Il y a eu des propositions de la part de la maison de disques. On a pensé à un moment à Stuart Levin, et puis c'était trop cher. Et puis, en fin de compte, je me suis dit, bon, j'ai pas trop envie, on va faire autre chose. Et Blackwell n'était pas très chaud pour qu'on ait Stuart Levin. Il y a eu d'autres producteurs, je ne me rappelle plus son nom, en anglais, je n'ai pas trop aimé non plus. À chaque fois que je recevais des disques, je les écoutais, ça ne me plaisait pas. Alors, j'ai fini par tomber sur le dernier album de James Brown, produit par Jazzy B, une partie par Jazzy B. Il y a certaines chansons dont le groove me plaisait beaucoup, donc j'ai dit, bon, on va partir là. Et puis, j'ai réécouté le dernier album que les Fine Young Cannibals ont fait. J'ai trouvé le groupe pas mal du tout, le son et tout. J'ai demandé, c'est David Z qui a commencé à travailler avec Prince, qui a bossé sur Kiss et tout ça. Je dis, bon, écoute, prenons contact et voyons. Donc, voilà comment je suis arrivée à choisir ces deux producteurs-là.
Puis alors, le studio Paisley Park, qui est un studio mythique, finalement, vous y avez travaillé.
Un mois et demi, pratiquement.
Vous pensez que c'est vraiment un studio qui mérite sa réputation, ou est-ce que finalement, vous pensez que vous auriez pu faire le même disque à Paris, par exemple, ou...
Non, je pense pas. Je pense pas parce que. Je dis pas ça parce que c'est Prince, moi personnellement. Prince, bon, c'est Prince quoi. Bon. Ce studio, ça se sent que c'est un musicien qui l'a créé. Parce que souvent, moi, ce qui me gênait dans les studios, c'est cette impression d'étouffer, d'être dans la contrainte totale. Alors que là, tu rentres le matin, tu sais que c'est le matin, l'après-midi, tu sais que c'est l'après-midi, le soir, tu sais que c'est le soir. La plupart du temps, tu es dans un studio, tu rentres le matin, tu sors, il fait nuit, tu n'as même pas vu passer la journée, tu sais pas s'il a plu ou s'il a neigé. Donc, ce côté très lumineux de Paisley Park qui est un enchantement pour tout musicien parce que ça te relaxe quand même de savoir qu'il fait jour dehors, quoi. Et il y a une cuisine superbe où on peut manger, il y a le côté convivial américain et il y a les studios où il y a une maintenance terrible. C'est dans la seconde où on dit qu'il y a un truc qui tombe en panne, que bon, ben, il y a quelqu'un qui est là, il y a un coursier tout le temps. C'est vraiment agréable. Moi, j'aime bien.
Bon, ce sont des gens qui ont la réputation d'être vraiment rigoureux, professionnels. Alors, on a des fois tendance à associer un petit peu ces qualificatifs avec une certaine froideur. Vous arrivez en studio à canaliser votre tempérament fougueux pour travailler d'une manière comme ça?
Moi, ça va être difficile de me faire faire quelque chose de froid, hein, parce que c'est aussi un tempérament. Hein. Moi, c'est pas mon tempérament du tout. D'ailleurs, mon producteur était d'un tempérament très très calme. David dit, c'est le calme fait homme. Il est très très calme. Il a plein de gadgets. Il est toujours fourré avec les jeux électroniques et tout. Il est un grand gosse. Il est toujours en train de rigoler de ses jeux, des trucs comme ça. Et moi, il m'a vu arriver, cette petite bout de femme remplie d'énergie. J'ai quoi ce machin? Et il m'a dit, moi, j'ai jamais fait une séance comme ça. D'avoir un artiste dans le studio qui danse, qui chante, qui crie, qui fait son truc. Et il était comme ça derrière la cabine et à me regarder, il était tout content. Il me disait, yes, it's good, it's one take. If you wanna do more, go ahead. J'étais là, oh, j'étais tout le temps dedans. Il était heureux comme tout. Jamais il avait vu ça. Il ne savait jamais. Donc moi, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que j'ai envie que les gens qui sont avec moi soient, que ce soit une partie de plaisir plutôt que ce soit un boulot de contrainte. Parce que le studio, si je le prends pas comme ça, je déprime complètement parce que j'aime pas du tout ce côté statique qui est de faire les choses et de refaire les choses 20 000 fois.
D'accord. Quand vous êtes arrivé en studio, l'album était entièrement composé.
Ah, tout était fait. Tout était fait. J'ai envoyé les maquettes aux deux producteurs. Et ça a été difficile de choisir les chansons définitives parce qu'il y en avait beaucoup. Après, une fois que les 10 chansons étaient choisies, on en a choisi 11 en tout, on en a fait 11 chansons, il y en a 10 sur le 10 parce que la 11e chanson, James Brown devait chanter dessus et puis au moment où on devait le faire, son père est mort et puis on a laissé tomber la chanson parce que sans lui, ça n'a pas de sens. Et ce qui a été difficile, c'est de départager qui produit quoi dedans. C'était pas évident du tout. Mais ça s'est passé très bien parce que à force de les écouter, de les rencontrer et tout, on arrivait à cerner les personnalités des uns et des autres et pour partager les chansons.
Quelle est la signification du titre
Aïe?
Aïe.
Ça veut dire la vie. La vie, tout simplement. C'est tout un programme, la vie. La vie, pourquoi? Parce que la chanson dans laquelle le mot aïe se trouve, c'est une chanson qui part de l'amour qu'il faut donner à la terre-mère. Parce que plus ça va, j'ai jamais réagi par rapport à l'écologie, à la pollution et tout ça, c'est pas mon problème. J'ai pas envie de parler d'écologie ou de faire de la politique de ça. Moi, j'en parle parce que personnellement, j'ai pris conscience de ça. Je me suis dit, ma vie est en danger. La vie de mon enfant est en danger. Si les autres ne s'en rendent pas compte, il serait peut-être temps qu'on en parle. Parce que la pollution qui continue galopante. On a appris il n'y a pas longtemps que des années 50 jusqu'en 90, les Américains ont fait je ne sais pas combien d'expériences nucléaires, le nombre de gens qui sont morts, sur lesquels ils ont injecté du plutonium pour voir comment ça allait faire. Ça fait froid dans le dos quand même. Moi, je me dis, moi, mon gosse, j'ai pas envie qu'il vive dans un monde pourri, quoi. J'ai pas envie, quand je vais avoir 50, 60 ans, de te choper des maladies que je comprends pas, qu'on peut pas guérir, à cause des histoires d'intérêt et autres. C'est tout. Moi, ce qui m'a poussé à écrire cette chanson, c'est ça, quoi. C'est pas une question d'écologie ou autre, où je dis la vie, il faut la respecter. Il faut l'aimer, cette vie-là, pour pouvoir vivre correctement et pouvoir profiter longtemps de la terre. Il faut l'aimer. Il faut aimer la vie, voilà.
Alors, en ce sens, votre album est un petit peu un concept album. Toutes les chansons tournent autour...
Non, pas du tout. Ça part de la terre, qui est la base de tout, puisque nous sommes tous des habitants de la terre et qu'on se nourrit de la terre. Donc, ça part de la terre pour parler des problèmes des hommes qui sont sur cette terre. Ça parle de l'ignorance des uns et des autres, de ne pas savoir ce que fait l'autre. Et c'est ce qui amène le racisme, d'ouvrir les yeux et les oreilles pour éviter de devenir raciste, de lutter contre le racisme, parce que la montée du néo-nazisme et de l'extrême droite, qu'il y en a partout, ça me fait peur. C'est tout, on ne va pas revenir à la période hitlérienne. Ça ne nous a pas apporté de leçon. Où est-ce qu'on va, là? Pourquoi tant d'hommes sont morts pour qu'on recommence les mêmes conneries que 50 ans ou plus tard? Ça n'a pas de sens. Et ça parle de la terre, j'en arrive à parler de la place de l'homme noir dans le monde, de l'esclavage à la colonisation via l'apartheid. Quelle est la place de cet homme aujourd'hui dans la société? Parce qu'on n'arrive toujours pas à trouver notre place dans nos sociétés, dans les sociétés modernes d'aujourd'hui. On est soit perçu comme un étranger, soit quelqu'un qui vient prendre le pain de l'autre, jamais comme un être humain à part entière avec toute une culture et une tradition derrière, une histoire derrière soi. Et ça parle, je reviens encore à la vie une fois dans une autre chanson où quand on est en bonne santé, on ne s'en rend pas compte, on le prend parce qu'on est en bonne santé, c'est normal. Bon, mais c'est pas si normal que ça. Hein. Bon, il y a des gens qui sont malades. Hein. Et dans cette même chanson, on nous donne un exemple flagrant de la bonté de la vie et de sa cruauté. En même temps, une mère qui pleure un enfant dans une maison peut rigoler du baptême du prochain qui vient de naître et qui est vivant, alors qu'il y a un an, elle en a perdu un. C'est ça la vie, en fait. Ça prend, ça vous donne et ça vous en prend aussi de l'autre côté. Et de là, je reviens à parler de la prostitution des enfants. Cette chanson que j'ai chantée quand j'étais à Frisson, je l'ai mise sur le disque. C'est une des chansons qui me font mal au cœur parce que je juge incompréhensible et impardonnable que des adultes profitent des enfants, leur prennent leur enfance et d'un coup qu'un enfant de 9 ans vous parle comme si elle avait 50 ans et qu'elle ne sache pas pourquoi, qu'elle ne comprenne pas, qu'elle se dit peut-être j'ai péché quelque part, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, moi je dis non, j'ai pas envie d'être complice de ce genre de meurtre. J'ai pas envie d'être complice de ce genre de saleté là. J'ai pas envie de ça. Donc j'en parle. Pour qu'on sache que moi j'ai déjà dit ce que j'en pense, que j'ai pas envie que mon gosse me dise maman, mais pourquoi vous avez laissé faire ça? J'ai pas envie. Et de la prostitution des enfants, j'en viens à parler de l'amour, parce que l'amour il en faut pour la terre, il en faut pour tout le monde. Où je dis Je dis à celui que j'aime de me prendre la main pour qu'on ait montré au monde que l'amour peut faire changer les choses, que l'amour peut faire vivre deux cultures différentes ensemble, et que l'amour, c'est ça qui va nous sauver. Et s'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Aussi simple que ça. Et de l'amour, je reviens à parler des sans-domicile fixe, des gens qui sont dans la rue. Pendant qu'ils sont dans la rue en hiver, et qu'ils n'ont pas à bouffer, d'un autre côté, d'autres personnes achètent des chiens, achètent de la bouffe pour chiens, leur donnent du caviar à leurs chiens, et les êtres humains sont dans la rue à manger de la merde de chiens. C'est devenu une mode, on ne les voit plus, on ne veut plus les voir, on ne veut plus entendre leurs cris. On passe à côté, on jette une pièce quand on peut, on tourne la tête, parce que ça, on ne veut pas se mettre nos consciences en question pour faire changer les choses. Et moi, je trouve ça horrible et dégueulasse. Et de son de domicile fixe, j'en arrive à la déesse Yemanja, qui est la déesse de la pluie et de l'humidité, parce qu'il y a ces dieux-là aussi qui font partie de la terre et de la vie et de l'amour. Je lui dis de calmer ma colère, surtout quand c'est des gens qui viennent me provoquer. Pour provoquer ma colère, vois jusqu'où je vais aller. Qu'elle nous donne, qu'elle apaise nos colères. Le feu de nos colères, dès que le feu commence à s'embraser quelque part pour que ça ne prenne pas tout le monde, qu'elles descendent sous forme de pluie pour éteindre le feu de nos colères dans nos cœurs. Et dans la dernière chanson, j'interpelle la prêtresse du vaudou qui vient de sortir du couvent après plusieurs jours de couvent, où je lui dis, donne-nous ta sagesse. Apporte ta sagesse surtout à ceux qui sont remplis de certitudes, qui se disent, moi je peux ci, moi je peux ça, ils peuvent rien. Personne n'a de certitude. Le chasseur qui dit, moi je sors aujourd'hui, je vais ramener ma proie, qui ramène rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il aurait dû mieux faire de fermer sa gueule. C'est le féticheur qui dit, viens me voir, je vais te sauver ta vie. Quand la mort vient le prendre, qui c'est qui est là pour le sauver? Celui qui veut te sauver est mort. Alors, qu'est-ce qu'il te raconte? Moi, je suis contre les prétentieux. J'aime pas les prétentieux qui sont remplis de certitudes. Il n'y a pas de certitude dans la vie. Et c'est ça, l'humilité de la vie qu'il faut apprendre. Voilà. Écoutez, j'ai fait déjà des explications sur le disque, en français et en anglais. Les gens, moi je trouve qu'aujourd'hui on vit dans une société de consommation où tout est apporté aux consommateurs sans que l'imagination rentre en ligne de compte et sans que les gens réfléchissent par eux-mêmes. On les drogue en fait. C'est une sorte de drogue de la consommation où tu vas acheter. On est comme des moutons qui consomment. Moi je pense que si quelqu'un a envie de savoir, il peut savoir. D'où problème dans beaucoup de domaines où les gens ne veulent plus faire l'effort de savoir parce qu'ils savent que vous allez leur apporter la réponse sur un plateau juste en appuyant le bouton de la télé. Ça ne suffit pas. D'une part, et de deux, quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis mieux dans ma langue maternelle. Parce que c'est la langue que je possède le mieux et dans laquelle j'ai envie de parler aux gens aussi. Mais ce n'est pas exclu que je chante un jour en anglais parce que j'ai envie de chanter en anglais. J'ai envie de chanter en français parce que j'ai envie de parler à ces gens-là. J'ai envie de chanter en portugais, j'ai envie de chanter en espagnol, j'ai envie de chanter en chinois, je m'en fous, moi. L'essentiel est que je comprenne ce que je veux dire, que ce que je veux dire, ça parte de moi et que ça passe par une autre langue pour que je parle aux gens. Moi, ça m'intéresse, ça. Parce que j'adore la communication. Je suis quelqu'un de communication. Je suis quelqu'un de dialogue. Dans ma famille, ça s'est toujours passé comme ça. Si mes parents ne se parlaient pas, je ne pense pas qu'ils seraient encore ensemble aujourd'hui. S'ils ne nous ont pas appris à dire ce qu'on a sur le cœur, je ne serais pas là aujourd'hui non plus. Alors, je pars du principe qu'il faut communiquer. Alors, j'en reviendrai certainement et sûrement à chanter un jour dans différentes langues. Il n'y a pas de problème, je suis partante. Et ça n'enlèvera en rien mon originalité, ni mon authenticité, ni ma culture. Ça n'enlèvera rien de moi, du tout.
Vous avez hâte de partir en tournée?
Ah oui, depuis le temps que je suis assise à la maison, depuis le mois d'août, j'en peux plus de rester assise, j'ai envie de commencer. Parce que moi, la scène, c'est mon élément premier. J'ai commencé la scène avant d'en arriver au studio. J'adore être en scène. Quand je suis sur scène, je suis heureuse. Il n'y a rien qui remplacera jamais ça. Donc j'ai envie de commencer. Et en ce moment, je répète, je fais la promotion aussi en même temps. Ce n'est pas facile, mais enfin, j'aime bien. J'aime bien être occupée.
Puis vous avez une tournée qui est prête, qui est programmée ou...
Ah si, il y a une tournée qui est en train de se finaliser. On va commencer une tournée en février par la Scandinavie, après il y a la Suisse, et puis après on va aux États-Unis, et puis après on va au Japon, on va en Australie, et on revient en Europe, et voilà.
Ouais, c'est un très long
Peut-être
périple.
qu'on va aller en Asie aussi, en Asie du Sud-Ouest, je sais plus.
Justement, des zones, disons, plus défavorisées, tout ça, vous pensez à aller jouer là-bas?
Moi, c'est ce que j'aimerais par-dessus tout. Mais c'est difficile d'atteindre les zones. Moi, j'aimerais aller par exemple en Asie, la partie de l'Asie qui est très pauvre. Mais il paraît qu'il n'y a pas de structure vraiment là-bas. C'est difficile d'y aller. Moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup y aller. Aller parler à des gens qui n'ont rien, mais qui partagent peut-être quelque part mes idées, c'est encore plus éclatant. Donc, je ne sais pas, peut-être je vais y aller. Et puis à l'Afrique aussi, il faut quand même que je retourne chez moi. Ça fait 10 ans que je n'ai pas joué chez moi. Donc, je sais pas, y aller l'année dernière, ça ne s'est pas fait. Et j'espère que l'année prochaine, j'irai.
Justement, l'Afrique, vous avez un disque là qui va sortir qui est vraiment très très performant au niveau du son, au niveau de la musique et tout ça, qui est vraiment au top de ce qui peut se faire, ça qui est très percutant. Et ça, vous pensez que les gens là-bas vont le recevoir comment ce disque?
Je me suis beaucoup posé la question jusqu'au moment où chez moi on m'a donné la réponse. Ça ne les gêne pas du tout. Il y a eu un groupe de musiciens qui a joué ma chanson Oui Oui pour moi avec les moyens de bord. Ils n'ont pas eu besoin de. Ça sonne aussi bien, sinon mieux. Ce qui les intéresse, c'est jouer une musique. Peu importe comment elle est sophistiquée. Ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai grandi comme ça, hein, en écoutant les musiques très sophistiquées qui arrivaient de l'Occident. Ce n'est pas la sophistication qui rébute les gens. Ça n'a rien à foutre de la sophistication. C'est l'émotion qui est dans la chanson qu'ils écoutent. C'est ça qu'ils reproduisent. Et moi, ça m'a cloué dans mon siège quand je suis sortie comme tout le monde pour aller boire un pot dans un bar. Et voilà, bing. Je dis, bon, bravo. Et quand j'ai appris que toutes les deux semaines, il y a des concours entre écoles où les gens font la meilleure interprétation d'Angélique Kidjo, bon ben vous avez peur un peu parce que c'est une responsabilité. Et quand les jeunes vous disent, au moins pour une fois, on entend un artiste béninois chanter, on comprend ce qu'elle dit, vraiment, malgré cette musique moderne qui est derrière, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est un compliment, ça me fait vraiment plaisir, mais en même temps, c'est une responsabilité que j'ai sur les épaules très lourde. Quand je vois des gens qui se coupent les cheveux comme moi, alors que moi, je n'ai pas fait dans un but de look ou pas, tout simplement pour une question pratique, parce que je n'ai pas le temps de me tresser, ça me prend trop le temps, ça me fait chier de m'asseoir pendant des heures pour aller faire des tresses. Que je vois que les gens se coupent les cheveux comme moi, mettent des combinaisons comme moi, bon, ben vous vous dites, mais quelque part, il ne faut pas faire des conneries, parce que c'est une jeunesse qui vous suit. Et voilà où est mon problème, moi. Moi j'ai peur, mais je sais pas, mais je peux pas empêcher les gens de vivre, de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais en même temps, j'assume. Et c'est pas facile à assumer, c'est tout.
Est-ce que vous pensez que votre prochain disque, les gens de votre pays et tout ça, toute la jeunesse africaine va pouvoir l'entendre rapidement? Ce qui va être.
Dès que ça va sortir et il y a quelqu'un qui l'achètera ici, ça va être piraté le plus vite possible. Des fois, c'est piraté dans la semaine qui suit. Alors.
Ça, on parle de piratage et ça, c'est toujours quelque chose qui fait un petit peu trembler les artistes.
Mais écoutez, moi, ça me fait plus trembler parce que quand j'ai posé le problème au gros groupe ici en disant pourquoi est-ce que vous ne faites pas un prix pour le marché africain spécialement en tenant compte du niveau de vie des gens et ne pas vendre les CD ou les cassettes au même prix qu'ici, personne n'a voulu faire l'effort. Les gens adorent trop la musique pour pas en consommer. Sans musique, il vaut mieux les tuer. C'est encore pire que l'esclavage. Les gens, ils adorent ça. Ils sont prêts à tout pour écouter de la musique. Voilà. S'ils sont prêts à tout, ça veut dire piraterie. Voilà. Mais moi, c'est un plaisir pour moi quand on me pirate. Parce que au moins, je sais que les gens, même s'ils n'écoutent pas dans les bonnes qualités sonores, au moins, ils l'écoutent. Je ne suis pas la seule à être piratée. Hein. Moi, j'étais au marché de la piraterie. Il y avait tout le monde. Hein. Le disque de Tracy Chapman venait de sortir il y a 2 semaines. Il était là-bas avec la photo et tout. Michael Jackson, Dangerous, c'est pareil. Hein. Tout le monde y passe. Hein. Moi, je suis un menu frotté à côté. Hein.
Oui, mais vous êtes peut-être une des seules à vous en réjouir en voyant le côté positif de la chose.
Je m'en réjouis parce que c'est la seule solution pour que les gens écoutent de la musique. Mais dans un autre sens, ces gens qui piratent la musique et qui vendent, c'est leur seul moyen pour nourrir leur famille. Si nos gouvernements faisaient quelque chose pour que les gens puissent ne pas faire ça, faire autre chose, je vous assure qu'ils seraient contents de donner à manger à leurs frères musiciens. Ils ne diraient pas non parce que les musiciens qui sont sur place, ils ne sont pas à bouffer. Ils n'ont pas de système. Le système des droits d'auteur en Afrique est complètement inexistant. On vous dit, votre disque marche, les sous rentrent, quand ça rentre de la France ou des autres pays européens, mais le mec qui tient la maison de droits d'auteur, il va vous dire qu'il y a des frais, il a une voiture, il faut machin et tout. C'est vos sous qui payent ça, vous n'avez jamais rien. C'est ça la réalité là-bas. Alors, les artistes, qu'est-ce qu'ils font? Mais là, ils se piratent eux-mêmes. Avant que le disque ne sorte, ils se piratent eux-mêmes. Ou ils font comme Youssou, ils font un disque pour l'Afrique et ils font un disque pour l'Occident. C'est la seule solution. Parce que la situation économique est telle que les gens qui vendent les disques sont moins blâmables que le système qui est en place. C'est tout. C'est pas la peine de s'énerver contre les gens. Ils pourront pas comprendre votre discours. Parce qu'ils ont besoin de bouffer, aussi simple que ça.
Mais si je prolonge un petit peu votre discours, vous, en tant qu'artiste, si vous voulez continuer à vous exprimer d'une manière un petit peu conséquente, comme vous le faites en ce moment, vous êtes condamné à l'exil. Vous ne pouvez pas prétendre mener une carrière comme vous la menez maintenant, avec votre notoriété depuis votre pays natal.
Je ne peux pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas les infrastructures qu'il faut. Ce n'est pas que politiquement, je ne pourrais pas. Politiquement, j'aurais aujourd'hui, si je m'installe chez moi, j'aurais autant de liberté pour parler, parce que c'est la démocratie au Bénin. Mais c'est que les structures n'existent pas. C'est difficile aujourd'hui de créer une structure comme on en a en Europe. Les gens, leur besoin premier, ce n'est pas la musique, c'est un luxe. C'est un luxe, c'est un plaisir. Déjà, ils font énormément en allant acheter des cassettes pirates qui coûtent quand même suffisamment cher pour ce que c'est. Vous allez leur dire d'aller investir pour créer un studio ou une maison de disques. Ils n'ont pas conscience de ça. Ce n'est pas, c'est pas une mentalité que nous avons. Et même si on crée un studio, la plupart du temps, il y a eu des expériences qui ont été faites avec l'aide des pays occidentaux. Ils créent le studio et ils pensent plus à la maintenance après. À former les gens pour réparer, pour savoir s'occuper du studio. Après, le studio tombe en décrépitude, ça fait des millions foutus en l'air. Avant d'aller faire un projet qui puisse permettre aux artistes africains d'habiter chez eux et d'avoir les moyens de communication comme on les a ici, eh bien, il faut étudier le problème à fond. Il faut étudier la société dans laquelle on va instaurer ce genre de choses-là. Il ne faut pas aller le faire comme on irait à la plage. Ce n'est pas possible. Il faut aller voir ce qui est rentable, ce qui peut rapporter, comment le faire. S'il y a un système de satellites important dans le pays pour recevoir des télés ou pour faire des émissions en direct ou pour faire des radios, attends, il y a 10 000 choses qu'il faut voir. On ne peut pas partir comme ça à l'aveuglette. Et moi, je n'ai pas envie d'investir dans un premier temps dans ça. Si j'investis chez moi, ce sera dans l'éducation et dans la santé. Parce que c'est ça la priorité pour moi. C'est ce qui urge aujourd'hui pour moi. C'est ce qui fait mon souci aujourd'hui. Après, je verrai pour la musique. Une fois que les gens sont correctement soignés et qu'ils peuvent recevoir une éducation, la musique, après, ça vient. Voilà. Les priorités sont dans ce sens-là. Malheureusement, je ne peux pas le faire chez moi parce que je n'ai pas l'argent pour l'instant. Mais quand j'aurai l'argent, ne vous inquiétez pas, je le ferai.
Mais comme vous dites, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une histoire de mentalité à changer puis de projets conséquents qui puissent permettre...
Ah, surtout au niveau de la musique. Mais au niveau de la santé, il y a déjà des infrastructures là-bas. C'est juste... aller créer des infrastructures là où il n'y en a pas, et où les gens n'ont pas les moyens aujourd'hui de le faire. Le nord du Bénin est une partie complètement décentrée. Si je vous dis qu'aujourd'hui les gens meurent d'un simple tétanos au nord, des conneries tuent des gens aujourd'hui. Des trucs qui ne tuent plus depuis longtemps tuent encore aujourd'hui. Au nord du Bénin et en Afrique. Pourquoi? Parce que les premiers soins sont trop loin des fois. Ou quand il y a un dispensaire, il n'y a pratiquement plus rien dedans. Moi, je dis non. Je dis, c'est stupide. Si le sida est en train de faire autant de ravages aujourd'hui en Afrique, c'est à cause de ces systèmes complètement décrépits qui sont là-dedans. Tu vois, dans un hôpital, tu n'as même pas de compresse. C'est quoi cette connerie? Tu es malade, tu vas te faire soigner une plaie, tu amènes mercurochrome, alcool, compresse et tout. Non, il ne faut pas délirer. Tu payes les soins, mais tu n'amènes pas tout. Et en plus, des fois, tu vas à la pharmacie pour acheter ta compresse. Eh bien, c'est les compresses qu'on envoie pour les aides là-bas qui sont dans les pharmacies. Parce que le pharmacien n'a plus rien, n'a plus d'argent pour aller s'acheter. Eh bien, il faut bien qu'il bouffe. Et voilà. Ou bien on va acheter un médicament, de l'aspirine, c'est périmé depuis je ne sais pas combien d'années. Et vous voulez que les gens fassent quoi? Ah oui, ils prennent, ils s'empoisonnent comme ça. Mais qui c'est qui s'en occupe, préoccupe? Ils n'en ont rien à foutre. Les laboratoires, c'est des lobbies énormes en Europe. Ils ne sont pas prêts à perdre des millions pour aller faire des médicaments adaptés aux pays du tiers-monde. Ce n'est pas leur souci. Il y a des gens de Médecins Sans Frontières, ils se battent. Moi, je les admire beaucoup. Je les admire, mais ils se battent, mais contre des géants. parce qu'ils croient en leur métier et qu'ils croient qu'eux, ils peuvent faire changer les choses. Même si ce n'est que ça, tout petit peu, c'est déjà ça. Même si c'est une vie qui est sauvée, c'est une vie quand même. Et c'est ça, cette notion que n'ont pas nos gouvernements, qui me tue.
Est-ce que vous pensez quand même, vous qui vous exprimez à travers quelque chose de tellement vivant que le bon sens peut quand même reprendre le dessus, est-ce que vous arrivez à garder une dose d'optimisme vis-à-vis de toutes ces choses?
J'y arrive. C'est pas facile, c'est pas évident tous les jours, mais j'y arrive. J'y arrive parce que je me dis que si je ne suis plus optimiste, je meurs. J'arrête tout. J'arrête la musique. Parce qu'à partir du moment où l'optimisme s'en va, l'aigreur s'installe. Je n'ai pas envie d'être quelqu'un d'aigri. Jamais. Et l'optimisme est toujours là. Pourquoi? Parce que tant qu'il y aura des hommes sur cette terre, je serai optimiste. Parce que je sais qu'un homme est capable du meilleur et du pire. Et que si l'homme est suffisamment convaincu que ce qu'il est en train de faire va dans le sens de sauver ne serait-ce qu'une vie, cet homme ou cette femme est capable de donner sa vie pour ça. C'est ça qui va blesser l'homme. Parce que quand l'homme décide de se battre pour une idée à laquelle il croit et qu'il voit la réalisation de ça, il se bat. Mais il se bat comme une bête, un fauve qui est sur le point de mourir pour sauver sa peau. Et c'est ça que j'admire chez l'être humain. S'il n'y a plus question d'argent, il n'y a plus question de classe sociale, il n'y a plus question de couleur. Parce qu'il y a une vie qui est là, tout le monde tend à la sauver. Et c'est ça qui me pousse. Parce que malgré l'obscurité totale dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la merde totale dans laquelle nous sommes, il y a des hommes qui sont encore admirables, qui croient encore en l'être humain, qui donnent leur vie. Alors, moi, quand je suis devant les gens de Médecins Sans Frontières, je n'ai même pas de mots pour les remercier. Parce qu'ils vont dans des coins, ils voient des choses, mais dont ils ne peuvent même pas parler. Vous ne croyez pas, ça vous fait froid dans le dos. Des choses qui peuvent détruire un être humain. Qui part d'ici complètement en bonne santé et qui revient mais désabusé, qui est horrifié, dégoûté du système dans lequel il vit. Parce que petit à petit, ils se rendent compte que la misère du tiers-monde vient en grande partie des grandes puissances européennes. Et ils ont fait partie du système pendant longtemps, sans savoir. Et en même temps, maintenant, ils se retournent contre ce système, ils se rendent compte que c'est un titan imbattable. Et pourtant, ils continuent. Pourquoi voulez-vous que je perde l'optimisme? Je ne peux pas. Si je perds mon optimisme, c'est que... Avant que moi, je ne perde le mien, c'est qu'eux, ils l'ont déjà perdu. Moi, ce qui m'importe, c'est avoir toujours la santé. Parce que ça n'a pas de prix. Tant que tu es en bonne santé, tu peux continuer les luttes partout dans le monde. Et c'est ça que je souhaite à tout le monde. Que ceux qui sont malades aujourd'hui, qui ne savent pas s'ils vont vivre ou pas, qui sont atteints de maladies incurables, moi, je leur souhaite beaucoup de courage. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre à souhaiter d'autre que de mourir dans la dignité. Et ceux qui ne sont pas malades, je leur souhaite bonne chance de garder cette santé. Parce que la santé, c'est... On ne s'en rend pas compte quand on a une bonne santé que c'est une richesse monstrueuse et qu'il ne faut pas s'amuser avec sa santé. Qu'il faut la garder pour pouvoir continuer à vivre et pouvoir voir et pouvoir être témoin de son temps. Alors je souhaite bonne santé à tout le monde, moi.